Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, je me retrouve en Belgique, à Boutersem. Est-ce que je le dis bien ?
Boutersem.
Avec la célèbre et grande Anna Besson.
Bonjour Anna. 1m73.
1m73 quand même. Qui est une excellente flûtiste de baroque, de classique, et qui joue entre autres de la musique irlandaise. Donc Anna, je vous laisse d'abord jouer et après vous vous présenterez.
Très bien.
Abasourdi. Alors, pour que vous vous représentiez, mes chers auditeurs et auditrices, là, je suis en face d'Anna Besson. Elle a quand même un souffle incroyable et elle est juste en tailleur sur un lit. Moi, je croyais que pour ça, il y avait besoin, enfin, pour un tel souffle dans la flûte, il y avait besoin d'être debout. Enfin, ça, on en parlera peut-être plus tard. Donc, Anna, voilà, je vous laisse vous présenter vous-même.
Donc, voilà, je m'appelle Anna, j'ai 35 ans bientôt. Ouais. Il m'est arrivé de penser que j'avais moins. Et donc je vis en Belgique depuis quelques années, où j'élève deux petites filles. Et je suis professeure au conservatoire de Bruxelles, ainsi qu'au celui d'Amsterdam en traverso. Donc le traverso, c'est la flûte traversière baroque.
Donc c'est pas ce que vous nous avez joué là tout de suite.
Non, là je viens de jouer une flûte irlandaise.
Mais en la base, vous venez de Perpignan, donc d'Occitanie.
Voilà, moi je suis perpignanaise, Occitanie pardon.
Catalan.
Non, c'est maintenant effectivement la région Occitanie, mais je crois qu'on se... On se détermine quand même bien comme catalan, encore maintenant. Voilà, je suis née à Perpignan, donc pour faire une courte biographie, j'ai appris à marcher et puis j'ai appris à danser la sardane. C'était le prochain développement personnel. Parce que mon papa jouait dans une coble et composait des sardanes.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'une coble ?
Une coble, c'est l'orchestre qui est composé de 11 musiciens qui jouent les sardanes, tout simplement. Donc on se rejoint dans ce qu'on appelle une aplèque. Une aplèque, ça va être un moment musical où on va danser plusieurs sardanes. Et la sardane est une danse qui se danse en rond. En général, on fait fille-garçon, mais c'est absolument pas obligatoire. Et c'est très collégial. Donc voilà, on a un pas court et un pas simple. Et la danse se fait en fonction de la musique. Quand c'est calme, on va plutôt poser le pas, glisser le pas. Et quand la musique devient un peu plus intense, on va commencer à sauter le pas. Voilà. Donc moi, j'ai appris très 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 jeune à danser la sardane. Et puis, aller dans les bals folk avec mes parents. Et à côté de ça, je suis rentrée au conservatoire de Perpignan quand j'avais 6 ans pour étudier la flûte moderne. Donc, je fais la distinction entre flûte moderne, flûte baroque, puisque la flûte moderne, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui quand on va s'inscrire au conservatoire. Quand on dit on va faire la flûte traversière, on appelle ça aujourd'hui la flûte moderne, qui est tout simplement la flûte en métal. Voilà. Et des années plus tard, alors j'ai toujours joué du coup de la flûte moderne, donc classique si on veut, musique, ce qu'on appelle vulgairement les musiques savantes. Et à côté de
avec
ça,
des bémols.
Avec des bémols et ouais, plein de dièses. Et surtout des compositeurs, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a répertorié, on sait les dates, etc., qui vont de la période baroque jusqu'à la période contemporaine. Alors que quand on fait de la musique traditionnelle, bien souvent, en fait, on a oublié le nom du compositeur et puis on joue ça parce qu'on l'a appris en bœuf, en session, et puis on s'intéresse même peu à qui était l'origine du morceau. Donc c'est vraiment la distinction entre musique savante et musique populaire. Mais moi, j'ai toujours eu les deux, ce que je trouve... très riche en fait, je suis très très contente d'avoir eu cette belle éducation. Et c'est la musique irlandaise donc qui se joue sur une flûte en bois qui m'a donné cette envie d'aller vers les musiques baroques, puisque le traverso, donc baroque, la flûte traversière baroque se joue sur une flûte en bois également.
Alors quelle est la différence, parce que moi je vois les deux flûtes là, mes auditrices et auditeurs, j'aimerais que vous les voyez. Moi je n'y connais pas grand chose, je vois surtout du bois noir. Il y en a une qui a des clés, il y en a une qui n'a pas. Quelle est la différence entre ces deux flûtes?
Alors il y en a une qui est une réplique d'une flûte italienne, donc de Carlo Palanca, qui était un fabricant de flûtes en Italie prospère jusqu'à environ années 1760 à peu près, entre 1720 et 1760, et elle est conique. Voilà, la grande différence avec la flûte aujourd'hui. La flûte moderne est une flûte cylindrique, la flûte baroque est une flûte conique. La flûte irlandaise est également une flûte conique, elle a beaucoup plus de clés, déjà, puisque, en fait, ce sont des flûtes qui étaient jouées à l'époque romantique, c'est-à-dire à partir des années 1820, 1830. Ça, c'est un modèle anglais, Riddle. Et, alors, elle peut avoir une patte de Do, pour ceux qui n'ont pas la flûte sous les yeux, mais la mienne s'arrête au Ré. Et elle a des trous très gros, Mathilde, je te le montre à côté,
oui.
Au niveau de l'embouchure, donc le trou dans lequel on va souffler pour produire le son, et au niveau des doigts également, c'est-à-dire que le traverso se joue avec le gras du doigt, ce que j'appelle vraiment le bout du doigt. La flûte irlandaise va se jouer en général avec les doigts tendus, ce qui va permettre d'ornementer mieux, et avec la deuxième phalange.
Mais alors, du coup, est-ce que ce sont pour vous deux instruments un peu différents? Parce que... finalement, vous jouez pas des mêmes. Là, j'ai les deux flûtes en bois, le traverso, la flûte irlandaise. Vous faites aussi de la flûte en métal, un peu moins dernièrement, apparemment. Mais du coup, c'est à chaque fois que vous changez d'instrument, est-ce que ça change beaucoup de technique?
Ça change énormément de technique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour chaque flûte, évidemment. Et alors, ce que j'aime penser en général, quand on me demande comment tu fais pour passer d'une flûte à une autre, alors ce qui m'arrive pas quotidiennement, hein, en général, on fait un concert sur une flûte. Il m'arrive d'avoir à changer pendant un concert. Ou alors j'ai fait des récitals qui allaient de la flûte Renaissance, qui est encore un autre système de doigté, qui n'a aucune clé et qui est cylindrique d'ailleurs, de passer à la flûte baroque en trois parties, à la flûte baroque en quatre parties, de passer à la flûte romantique à quatre clés, la flûte classique à quatre clés, la flûte romantique à huit clés, puis 12 clés, etc. À la flûte moderne, à la flûte en sol. En fait, je joue, je pense, environ 6-7 flûtes différentes, avec des techniques différentes, des techniques d'articulation, des techniques de doigté. Et j'aime bien penser que j'ai des cerveaux différents. C'est-à-dire qu'au début, on doit apprendre
le souffle, non?
Alors, le souffle, oui, certainement. Alors, vraiment, surtout pour l'irlandais, je dois dire, qui nécessite du souffle et aussi une articulation très particulière, puisqu'on ne va pas articuler avec la langue comme on fait dans la flûte. Dans la flûte, on va faire te-te-te-te-te. Ou en triple.
Alors, mes chères auditrices et auditeurs, je vous laisse 2 mois juste pour s'entraîner.
Voilà. Alors, qu'en irlandais, on va articuler, par exemple, avec la gorge. Alors, on va dire comment on fait. C'est tout simplement quand on siffle, c'est exactement ce qu'on fait. C'est ce système-là, je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais c'est ce qui va donner un son un peu plus rocailleux, on va dire, un peu plus... roots, comme on dit dans notre jargon.
Oui.
Et ça va demander aussi beaucoup, beaucoup de souffle, tout simplement parce que l'instrument a une perce beaucoup plus large.
Alors, qu'est-ce qu'une perce?
Alors, la perce de la flûte, c'est le diamètre à l'intérieur. Donc, le traverso est un instrument assez fin. La flûte traversière a une perce beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'il va falloir remplir le corps de l'instrument avec bien plus d'air qu'il ne faudrait pour un traverso.
Eh bien, Anna Besson, je ne savais pas qu'il y avait autant de sortes de flûtes, je ne savais pas qu'il y avait autant de sortes de façons de les jouer. Mes auditrices et auditeurs, est-ce que vous le saviez, vous? N'hésitez pas à nous contacter, à écrire un petit message, que ce soit sur Facebook ou sur le site de Radio Présence. Est-ce que vous voulez donc nous jouer un petit peu de traverso, donc merci, cette flûte baroque, et puis vous nous expliquerez un petit peu plus ce que c'est que le baroque, qui a quand même un sacré lien avec la musique traditionnelle.
Oui, exactement. Et ça m'intéresse énormément, d'ailleurs. C'est, donc, pour l'heure, je vais jouer un petit extrait de l'allemande, de la partita pour flûte seule de Jean-Sébastien Bach. Donc, je pense que le compositeur Jean-Sébastien Bach parle à beaucoup d'auditeurs. Il a composé une seule pièce pour la flûte seule. Il a composé pas mal de pièces avec clavecin, avec orchestre. Mais alors, pour la flûte seule, il y a cette partita.
C'était une partita de Jean-Sébastien Bach,
voilà,
jouée par Anna Besson, chez qui je suis en ce moment, au traverso.
Au traverso,
j'ai
voilà. Alors, traverso, c'est le terme italien, traverso. En général, on dit traverso, puisque c'est plus court, je pense, que flûte traversière, baroque. C'est le terme générique. Après, le traverso apparaît à la toute fin du... Le traverso tel qu'on, que celui que je joue maintenant, hein, apparaît vraiment à la toute fin du XVIIe siècle. Jusqu'alors, c'est plutôt la flûte à bec qui prime dans, dans le choix des compositeurs. Avant, on a la flûte Renaissance, qui est cylindrique et qui fait plutôt partie d'un consort. Par exemple, on va jouer avec d'autres flûtes, comme on peut avoir un consort de viol de gamme, un consort de cornet, un consort de sackboots, et on va avoir aussi des consorts de flûte Renaissance, mais qui vont surtout jouer de la musique vocale. À la fin du XVIIe siècle, on rajoute à cette flûte Renaissance une clé. Et elle n'est plus cylindrique, mais elle devient conique, ce qui permet à l'instrument de devenir chromatique. Alors c'est un peu compliqué à comprendre, peut-être pour ceux qui n'ont jamais joué de musique, mais chromatique, alors, ça veut dire jouer toutes les notes de la gamme.
D'accord, et donc avant, on ne jouait que les notes blanches du piano, c'est ça ?
Disons qu'on était très restreint du manque de clés, surtout, parce que ça veut dire qu'une flûte traversière n'a que 6 trous à l'époque Renaissance, et donc on peut jouer surtout ré, mi, fa, sol, la, si, avec des doigtés qu'on va changer selon qu'on passe à une octave supérieure ou inférieure. Et on a des tempéraments aussi, alors ça c'est très 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 précis, qui sont différents par rapport à aujourd'hui, qui pourraient faire un petit peu mal aux oreilles à certains auditeurs.
Alors les tempéraments, c'est quoi ?
Alors c'est très compliqué à expliquer comme ça à la radio en quelques minutes, mais en gros, un tempérament, aujourd'hui on va c'est le tempérament égal, c'est-à-dire que si on joue des notes sur un piano, elles vont, l'idée c'est qu'elles aient à peu près toutes la même distance entre elles. C'est-à-dire qu'entre Do et Do dièse, et Do dièse et Ré, on a exactement la même distance. Évidemment, c'est pas exactement pareil, puisque ça ne peut pas exister. C'est-à-dire que les deux extrêmes n'auront pas exactement la même distance par rapport au reste. Alors, c'est très très moderne, hein, le tempérament égal. Jusqu'au début du XXe siècle, on avait énormément de tempéraments différents. Alors ça vient vraiment du Moyen-Âge, où on estimait que chaque tempérament avait une influence sur le corps. Donc, si on jouait avec ce tempérament-là, on allait plutôt avoir une âme perturbée, celui-ci allait nous faire du bien, celui-ci allait sonner la bile, etc. Donc, c'est vraiment des croyances très anciennes qui ont perduré tout au long de la Renaissance et de l'époque baroque. Et à l'époque baroque, alors ça se représente avec des cercles. On a un cercle qui dit, voici ce tempérament, mésotonique, sixième de coma, quatrième de coma, etc. Et tous les compositeurs décidaient que pour cette tonalité, ce tempérament allait mieux marcher. Alors, pour la flûte, vous voulez me dire comment on fait? Alors, pour nous, c'est assez relatif, hein, puisque avec une flûte, c'est d'ailleurs le reproche que faisait Mozart à la flûte, on peut jouer faux, entre guillemets, puisqu'évidemment, le tempérament rend la fausseté tout à fait relative. Mais je peux, en mettant le même doigté, jouer un ton de différence. Je vais le faire une fois, vous allez voir. Allez, je ne vais pas bouger les doigts. Hein.
D'accord.
On va dire un demi-ton de différence.
Alors là, moi, je vois Anna qui tourne sa flûte au niveau de sa bouche et effectivement, elle n'a pas bougé les doigts. C'est juste la façon dont vous soufflez dans le tube.
Exactement.
En fait, dans la...
Donc, d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'avant un concert, on va me dire, voilà, on a accordé le clavecin, par exemple, ou la viole de gambe dans ce tempérament. Je dis très bien, je demande à ce qu'on joue quelques notes, j'écoute et j'essaie juste de savoir à peu près où elles sont sur ma flûte. Donc c'est énormément psychologique.
Ah oui, mais c'est, alors ça veut dire que c'est très... Enfin, vous avez pas, c'est pas comme on tourne un bouton et vous êtes sur le bon tempérament. Il faut
pas
que
du tout.
Vous le fassiez, vous.
Pas du tout. C'est ce que moi j'appelle, et j'en parle beaucoup à mes élèves, l'écoute active. En général, si on joue avec une écoute passive, on peut très bien se dire, bon, on verra bien où est mon la, où est mon do, où est mon sol. On a quand même 90% de chance d'être à côté de la plaque.
Oui, c'est vrai.
Alors que si on se dit, si on entend avant dans sa tête, c'est exactement ce son que je veux avec cette hauteur de note, avec cette couleur, cette lumière, le psychologique fait que le corps se met en action et qu'on n'a pas besoin d'hésiter pour trouver cette note-là et sa juste... intonation.
Alors, moi, je vous ai vu à un concert donc à Lille...
À la scène musicale.
À la scène musicale à côté de Paris, avec un clavecin et une viole de gambe. Je vous laisse dire les noms de vos...
Oui, alors c'était Justin Taylor au clavecin et Myriam Rignol à la viole de gambe.
Voilà. Et effectivement, j'ai vu cet accordage qui ne correspond pas à l'accordage dont on a l'habitude d'un orchestre. Et donc, ça veut dire qu'ils vous ont joué quelques notes. Alors, ils se sont accordés entre eux, déjà. Et puis ensuite, ils vous ont joué quelques notes et vous êtes dit, ok, bah, c'est bon, je pars là-dessus, mais c'était du cerveau, quoi.
Du cerveau, du ressenti. Alors ça, pareil, c'est l'expérience qui va permettre au fur et à mesure, mais par exemple, je sais quel est le tempérament. C'est pour le coup, pour ce concert, c'est Valotti qu'on appelle, qui est très très proche du tempérament égal. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin de corriger énormément mon fa, ou en général on parle de quinte. Ce sont des cycles de quinte, ça c'est aussi très très technique pour en parler comme ça maintenant. On pourrait faire toute une émission là-dessus.
Oui.
Tout ça, ce sont en fait le tempérament, c'est tout simplement. On va arranger les quintes, on va arranger l'accord pour que telle tonalité sonne très bien, mais ça veut dire qu'on va faire en sorte qu'une autre ne puisse pas sonner aussi bien. Alors que dans le tempérament égal, l'idée c'est que toutes les tonalités de toute la gamme sonnent de façon, on va dire, vulgairement jolie.
Et donc, vous avez dit, il y a 6 tempéraments différents.
Oh là là, il y en a beaucoup plus que ça.
Oh, d'accord.
Je ne sais plus combien on en a répertorié, mais on arrive facilement à plus d'une centaine.
Ah ! Et est-ce que vous arrivez à les jouer tous ?
Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis limitée avec ma flûte, c'est-à-dire que je vais pouvoir corriger certaines notes d'une façon ou d'une autre. Après, il faut savoir que plus le tempérament a mis en valeur une tonalité, si je vais jouer une autre à côté qui est très éloignée de ça, je ne vais presque pas pouvoir jouer. Presque pas, puisque on l'a vu, j'ai un demi-ton environ de marge pour jouer une note, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que je vais vraiment avoir énormément de difficultés à jouer juste si le tempérament ne me convient pas.
D'accord, ok.
Alors que sur un instrument comme le clavecin, par exemple, où on va utiliser une clé d'accord pour accorder chaque corde, ça, à la limite, ce n'est pas au claveciniste de le faire en jouant, ça se fait avant, ça se prépare avant, et ce n'est pas un problème. Moi, je suis limitée.
Oui, et puis vous le faites, vous. En direct, je veux dire, parce que le clavecin il s'accorde avant, donc ils prennent beaucoup de temps pour le faire.
Voilà, c'est clavecin est faux en concert, on va taper sur celui qui a accordé le clavecin. Alors que si moi je joue faux, on va taper dessus. Je suis la seule responsable de l'intonation.
Et vous le faites en direct. Alors, voilà. Chères auditrices et auditeurs, est-ce que vous vous doutiez qu'un flûtiste ou une flûtiste ait autant d'efforts à faire? En tout cas, en vous écoutant, là, je comprends pourquoi on appelle ça la musique savante, parce qu'effectivement, il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup de connaissances.
Alors, ça, c'est quelque chose dont j'avais absolument pas conscience quand je faisais que de la flûte moderne. On n'en parle pas, puisque quand on joue la flûte moderne, c'est-à-dire qu'on va étudier aujourd'hui au conservatoire en métal, on ne parle pas de tempérament. On est tous au tempérament, comme on dit, égal.
Oui, on s'accorde tous sur la même chose.
C'est-à-dire que le piano nous joue une note, et bien c'est cette note-là, et on est tous d'accord, c'est cette note-là. C'est quand c'est en commençant à étudier les musiques anciennes que j'ai découvert les tempéraments et l'étude de ces tempéraments, et c'est absolument passionnant. On n'a jamais fini d'apprendre.
Oui, alors à partir de quel moment vous vous êtes passionnée pour les musiques anciennes ?
Je pense que c'était toujours là. À la maison, on écoutait beaucoup de choses, beaucoup de musique classique, beaucoup de musique trad, de la chanson française, des Sardanes. Mais alors je dois dire que, ou alors si on écoutait France Musique par exemple, et puis que j'écoutais du chant lyrique par exemple, j'étais très très gênée par le chant lyrique que je trouvais un peu difficile à écouter à cause d'un lourd vibrato notamment quand c'était le cas. Alors que dès que il s'agissait de musique ancienne, tout de suite ça me parlait plus. Ça me touchait plus, on va dire, ça allait plus droit à mon cœur.
Bizarre. Est-ce que c'est parce que vous avez tout de suite plongé, vous avez tout de suite été plongée dans la musique traditionnelle ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le lien au départ, puisque si on écoute, je ne sais pas, une cantate de Clérambault ou de Bach, etc., je pense que le lien avec la musique traditionnelle ne se fait pas directement. Mm-hmm. Je pense juste que le fait de ne pas englober, je pense que vraiment le vibrato, ça c'est une question intéressante, puisque c'est ce dont on parle toute notre vie, le vibrato.
Alors le vibrato, c'est quoi ?
Alors le vibrato, c'est une ondulation du son.
C'est par
exemple.
C'est comme ça,
par exemple.
Que je fais très mal. Hein.
Il y a plein de vibrato différents. Je vais le faire si je prends mon traverso, par exemple. On peut avoir le vibrato qui chevrotte. Alors, le vibrato, on a aussi des théories qui disent que ça vient de la gorge, des théories qui viennent que ça vient du diaphragme. Je pense que c'est une espèce d'équilibre entre les deux. En tout cas, on met en action notre diaphragme et pour empêcher le jet d'air d'aller de façon constante, mais on va le faire monter et redescendre afin de libérer une ondulation du son. Les chanteurs à l'époque ancienne ont dit qu'en général, on utilise du vibrato, mais que d'abord, on veut faire entendre la pureté de la note. Et c'est à la fin qu'on libère
le vibrato.
L'attention avec un petit peu de vibrato. Puis à l'époque moderne, on a de plus en plus vibré. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on voit les violonistes modernes aux compétitions, par exemple Reine Elisabeth, ça me choque à chaque fois, la main qui est sur le cordelier se met en vibration même avant d'avoir joué.
C'est-à-dire oui,
que c'est
vrai.
Vraiment, c'est un automatisme. Alors que jusque, je pense même jusqu'au milieu du XXe siècle, ça fait partie des ornements. On va agrémenter la musique en utilisant le vibrato. Ce n'est pas quelque chose d'automatique.
Et donc, est-ce que dans votre milieu, vous avez de larges discussions sur le vibrato?
Oui.
Sur le...
Oh oui, puisque certains décident de l'utiliser. Alors, est-ce que c'est parce qu'on l'a appris et que c'est très difficile de le désapprendre, quelque part? Est-ce que c'est parce que, justement, le fait qu'on ait dû l'apprendre et que ça a pris beaucoup de temps, on a préféré aller vers la musique ancienne parce que, du coup, il n'y avait plus besoin de l'utiliser et c'était plus facile comme ça? Mais même en musique moderne, je me rappelle quand j'avais mes cours de flûte moderne, j'ai travaillé mon vibrato avec un métronome. C'est-à-dire qu'on a le bip qui faisait ça, et moi, il fallait que j'ai, entre ces deux bips, 3 ou 4 ondulations.
Oui, alors justement, je voulais parler... il nous reste 5 minutes, ça va. Je voulais parler de votre travail, parce que vous êtes aujourd'hui... Donc, vous vivez de votre musique.
Oui.
Vous avez quand même un nom qui est connu. Donc, retenez, Anna Besson. Et pour arriver jusque-là, ça ne s'est pas fait par... Juste parce que vous aviez un miracle, vous avez quand même énormément travaillé.
J'ai énormément travaillé, je continue d'énormément travailler. On ne peut pas laisser tomber, voilà. J'ai énormément travaillé, c'est quelque chose... C'est aussi, alors c'est ce qu'on appelle le métier passion, c'est un petit peu... J'aime bien quand on dit toujours, mais vous les musiciens, vous êtes toujours en vacances, ça vous plaît. Évidemment que ça me plaît, sinon j'en serais pas là. C'est énormément de sacrifices aussi, notamment familial, c'est très compliqué à organiser pour les tournées, etc. Mais c'est une nourriture quotidienne. Si on ouvre une porte, notamment en musique ancienne, quand on fait un peu de recherche, puisque c'est lié, si on fait de la musique ancienne, on va forcément faire de la recherche avec, du répertoire, des façons de jouer, comment ça se jouait à l'époque, etc. Et on ouvre une porte et ça en ouvre 10 autres derrière. Donc en fait, c'est un travail énorme et nécessaire. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir le faire et de le transmettre, puisqu'en étant professeur, ça me permet aussi d'aller encore plus loin dans ma pratique.
Est-ce que vous avez... Moi, je me souviens... Alors, nous connaissons depuis au moins 20 ans. Quand vous avez fait vos études au Conservatoire de Versailles, vous avez passé des heures et des heures à vous entraîner dans votre
chambre. Dans ma chambre de bonne, oui.
Avec un métronome. Alors, je ne savais pas qu'il fallait aussi travailler le vibrato au métronome. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement faire des gammes, c'est aussi aller vraiment dans le microscope, j'allais dire, de la musique,
pour
travailler le moindre petite molécule.
Alors, il faut savoir que le milieu de la musique, c'est très beau, mais c'est aussi très, très compétitif. Donc, il faut qu'on soit le meilleur, tout simplement. Si on veut vraiment percer et faire ce qu'on veut, c'est-à-dire devenir soliste, avoir sa place dans un orchestre, passer des concours, on va être 200 pour un concours d'orchestre pour une place, une position, position en anglais, mais une place de flûte solo, par exemple, ou seconde flûte. Et évidemment, à côté de la flûte, il y a le piccolo, etc. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de travailler, mais qu'on ne peut pas se dire, bon, on verra bien. Si on veut vraiment le faire, il faut s'en donner les moyens. Et c'est un travail quotidien de plusieurs heures par jour.
Et oui, vous l'avez fait.
Je l'ai fait, oui.
Et maintenant, j'ai l'impression que votre travail, bon, certainement encore sur l'instrument, mais se reporte aussi sur beaucoup de recherches.
Énormément.
Dans votre concert, j'ai entendu parler de compositeurs qui ont été méconnus, comme Quentin. Corélie, est-ce que j'ai bien retenu? et de recherche, d'aller chercher des partitions, parce que vous ne savez pas qui il est, les partitions, comment ça se jouait, etc. Et ça, c'est ce qui fait partie de votre travail passion.
Exactement, ça fait aussi partie d'être un rat de bibliothèque et d'aller chercher à la BNF, ou alors maintenant on a Gallica qui est en ligne, on a IMSLP qui est une bible pour les musiciens sur internet, Petrucci Library, d'aller regarder ce compositeur. Tiens, j'ai entendu parler de ça, il a écrit une symphonie, je ne le connaissais pas. Est-ce qu'il a aussi écrit de la musique de chambre? Oui, super. Ah, il y a de la flûte, est-ce que je peux? Ah voilà, un nouveau bijou dont on ne connaissait pas l'existence. Et de découvrir une partition comme ça qui n'a pas été jouée depuis 2 siècles, c'est extraordinaire.
Ah oui, et oui. Et vous aimez les mettre, justement, en les valeur. Faire les mettre en valeur.
Ouais.
Alors, est-ce que pour les dernières minutes qu'il y a, n'hésitez pas à jouer aussi longuement que vous voulez. Est-ce que vous auriez quelque chose de Quentin ou de Corélie à nous jouer? Quelque chose de baroque qui vous plairait?
Par cœur comme ça? Je peux jouer un adagio de Corelli, oui, pourquoi pas, avec les ornements qui auraient été donnés par Corelli en 1700.
Alors, parce que lui, il donnait les ornements, c'est ça?
Alors, là, c'est la grande différence entre musique italienne et musique française. Les Italiens écrivaient un canevas dans lequel il était possible d'orner. D'ailleurs, on a des compositeurs qui disent qu'ils ne reconnaissent pas la pièce après, quand on retrouve les critiques de l'époque. Alors que la musique française était très, très notée, très encadrée, et le compositeur disait « J'ai noté tous les ornements, merci de ne pas en rajouter. » Moi, j'ai enregistré mon dernier CD autour de Corelli et Quentin. Et j'ai cet adagio de Corelli que je trouve absolument incroyable et qui m'a obsédée pendant des mois et des mois. Donc, je vais vous jouer le début.
Ah oui, super. Merci beaucoup Anna Besson pour ce final incroyable. Donc nous nous retrouverons sur les ondes de Radio Présence un peu plus tard. J'invite les auditrices et les auditeurs à regarder qui vous êtes sur Internet et à aller voir votre CD, évidemment, que nous mettrons sur la page de Radio Présence. Merci à Armand qui mettra en onde cette émission. Et merci beaucoup à vous, Anna.
Merci, Mathilde.
D'avoir répondu à mes questions.
Merci.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.